Bonjour, nous sommes le lundi 25 novembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Désormais, vous le savez, la relève, c'est 3 lundis sur 4 par mois pour rencontrer de nouveaux talents. Et aujourd'hui, on va parler de mémoire et de bandes dessinées. Bonjour Hugo, bienvenue. Vous venez de publier aux éditions de Noël Graphique un roman lui aussi graphique, essentiel, qui s'appelle Préférence Système. Merci d'avoir accepté de passer par nos studios.
Merci à vous.
Vous préférez dire que vous faites un roman graphique ou de la BD ? Ou vous en fichez ?
Je trouve que je fais de la BD, quoi.
Ouais. c'est d'ailleurs pas votre coup d'essai. Vous avez déjà publié Paiement accepté déjà chez De Noël. Vous publiez aussi chez Les Réalistes. Vous avez publié un album qui s'appelle Premium. Préférence Système, donc on revient à celui-là qui vient de paraître. Donc chez De Noël Graphique, se situe dans un futur proche où la mémoire artificielle du monde est saturée, où il faut donc décider de ce que l'on garde ou de ce qu'on ne garde pas.
Ouais, je me suis dit.
De quoi vous êtes. Quel est le point de départ ?
Le point de départ, c'est. Il y a un moment donné où on crée moins de contenant que de contenu. Et l'idée, c'était quand est-ce que va arriver ce moment-là et qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce qu'on va devoir supprimer pour pouvoir continuer de produire, sachant qu'on est dans un monde, un monde fini. Et du coup, ça interrogeait le réel. Est-ce que on va pouvoir continuer à être aussi, aussi productif aussi, dans tous les domaines, quoi. Il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi la production intellectuelle de l'homme qui est...
Comme artiste, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Quand on produit, on se dit est-ce que ce que je fais va résister déjà ? Est-ce que il y a déjà la première phase, c'est est-ce que ça va réussir à s'ancrer dans le réel ? Deuxième, c'est est-ce que ça va résister ? Et je pense que tout le monde se pose un peu la question. Mais là, l'idée, c'était de dire est-ce que les gens qui ont vraiment de l'importance vont eux aussi pouvoir résister et on imagine toujours une fin à long terme, mais en fait j'ai voulu la placer plus à court terme pour...
Oui, elle est autour de 2050, ouais, de mémoire, hein,
pour créer une urgence un peu, voilà.
Dans votre roman graphique, dans votre BD, donc, pour décider, si j'ai bien compris, il y a une règle assez simple, c'est que ce qui est peu consulté, on ne le garde pas.
Ouais, c'est un peu comme la règle du darwinisme, quoi. C'est bête et méchant, mais ce qui n'est pas efficace est voué à disparaître. Et on voit quand même dans le système humain et dans le système planétaire, c'est quand même comme ça que fonctionnent les choses. Et je me suis dit, faut appliquer ce système.
Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on voit que des grandes œuvres de l'histoire de l'humanité peuvent être amenées à disparaître parce que finalement, elles sont là, mais on ne les consulte plus.
Ouais, et à partir du moment où elles ne sont plus consultées, est-ce qu'elles existent encore même ? Après, l'idée, c'est qu'on peut les exhumer à un moment donné, on peut les sortir de l'oubli. Mais j'aimais bien cette idée de... les effacer pour toujours et qu'est-ce que ça génère chez l'homme, qu'est-ce que l'oubli de ces choses fondamentales peut générer.
Vous êtes le dessinateur, le scénariste, vous avez donc eu cette idée, vous avez construit une histoire. Au total, ça prend combien de temps ?
On va dire que pour trouver, glaner toutes les idées dont j'avais besoin pour écrire le livre et tout, ça m'a pris une année. Et puis à partir du moment où j'ai la colonne vertébrale du récit, ça me prend encore 2 ans pour traiter les informations, pour les mettre ensemble, pour les déployer dans un récit.
Et ça, vous faites tout ça seul ? Vous en parlez avec des gens ? Vous travaillez ? Comment on travaille quand on dessine et qu'on écrit une BD complètement ?
Non, moi, j'en parle très peu.
Vous êtes enfermé dans votre atelier, pardon ?
Après, dans mon atelier, il y a plein de gens qui travaillent parce qu'on a un studio d'animation. Mais c'est vrai que j'en parle pas parce que je trouve qu'une idée, faut la préserver, faut la cacher un petit peu. C'est quelque chose qui doit être secret, ça, voilà. Et c'est pas pour pas se la faire piquer, parce que en fait, on est des antennes. Il y a des centaines d'idées qui traînent dans l'air et on les attrape ou pas. Mais c'est plutôt parce que, en général, quand on a une idée et qu'on en parle à quelqu'un d'autre, et il va venir et il va la voir sous un autre angle. Et moi, au début, je faisais l'erreur de parler de mes idées assez tôt et tout. Et en fait, moi, voir l'idée sous l'angle de quelqu'un d'autre, quand je n'ai pas eu le temps de la travailler suffisamment, eh ben, ça m'enlève le plaisir de mon idée. Et en fait, tout de suite, j'y vois autre chose dans l'idée et quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. Et tout d'un coup, ça la rend un peu...
Moins intéressante.
Moins intéressante, ouais.
Et est-ce qu'à l'inverse, vous vous nourrissez, par exemple, là, quand vous avez su que vous alliez écrire sur la mémoire, sur la préservation de la mémoire, vous avez lu des choses pour alimenter votre travail ?
Bah en fait, non, surtout, ça passe, ça part d'observations dans la rue, souvent dans le métro, souvent dans le... Voilà, où je vois, tout d'un coup, il y a une faille dans le réel, il y a une faille d'humanité, et je me dis, ah, ça, si on... j'identifie un embryon, quoi, et je me dis, cet embryon, si je le tire dans le futur, est-ce qu'il va résister ? Est-ce qu'il va, voilà, est-ce qu'il va tenir ?
Ça, c'est la manière dont vous avez construit, par exemple, les décors, les... Parce que, comment dire, il y a des choses très futuristes dans votre, dans votre album, puis il y a des choses, on est frappé par les images qui sont presque très, très quotidiennes de la ville. Le héros va retirer de l'argent à, va toujours retirer de l'argent à un guichet, on se dit tiens pourquoi.
Parce que l'idée c'est que le futur est basé sur notre présent, que notre présent est basé sur le passé de... Voilà, donc,
moi
j'aime bien l'idée d'ancrer mon futur dans notre monde à nous, mais donc basé sur nous. Et donc y a, nous dans nos salons il y a des chaises des années, je sais pas, 50, 60 des fois, et je pense que dans le futur il y aura des chaises, des tables à nous quoi.
Bien sûr, je sais que ça énerve les auteurs compositeurs quand on leur demande, alors je sais pas si ça énerve les BDistes, mais vous travaillez d'abord sur le dessin et vous décrivez après une histoire à travers le dessin, ou est-ce que c'est le contraire, ou les deux vont ensemble ?
Non, il y a tout monte un peu. Après, il y a des, on va dire que pour l'idée, tout monte un peu ensemble, le graphisme, le scénario, et puis après, quand on passe effectivement à la fabrication, je sais pas comment on appelle ça, la production du livre, là, les choses sont un peu plus découpées. Ouais.
Là, vous travaillez comment, vous, pour le dessin ? Notamment, je me suis demandé, vous travaillez à l'ordinateur, au crayon, corps,
Les deux précédentes, je les ai faites sur papier, et puis là, vu que j'avais beaucoup de travail dans tous les sens, j'ai décidé de le faire sur ordinateur parce que ça m'évitait de passer la phase de scan qui m'a pris 3 mois de traitement de scan, de scanner en bonne définition en 1200 dpi. Je me suis dit, épargne-toi ces 3 mois qui ne servent pas à grand-chose. Et puis ce qui était important pour moi, c'était de faire une histoire et pas d'avoir forcément des beaux originaux à la fin du livre.
Voilà. Et ça a changé votre manière de travailler ? Le résultat est le même ou...
Ah non, en plus, moi je viens de l'animation, donc on travaille quand même essentiellement sur de la tablette graphique qui en fait c'est dessiné. On n'est pas assisté par l'ordinateur, hein, c'est juste que ça nous économise la phase de scannage. Et on peut faire par exemple découper, avant moi je découpais ma planche au cutter ou au ciseau, bah là plutôt que de faire ça et c'était visible, il y avait du volume sur mon papier du coup, enfin bref, là juste et puis ça n'existe plus.
Et donc
puis...
là ça veut dire que par contre vous ne pourrez pas exposer un jour les originaux ?
Non, mais du coup moi j'ai fait mes, il y a toutes mes recherches dans mes carnets, j'ai dessiné aussi de manière annexe au livre sur papier parce que j'aimais bien mes personnages.
Et en termes d'histoire, quels auteurs vous inspirent ? Là, on pense en vous lisant forcément à Fahrenheit 451, tout le monde doit vous le dire.
Oui, alors, en fait, je suis arrivé un peu à ça, mais sans vraiment. Parce que j'aime pas ce livre. je trouve que c'est trop binaire. Je trouve qu'il a écrit des choses beaucoup plus brillantes comme.
Cérébral Gorien, j'espère de dire une bêtise. Mais
comme
c'est ça.
Chronique martienne, que je trouve très très bien. Ouais, Fahrenheit, j'ai jamais été super. Mais bon, il parle de la mémoire, de la transmission, donc fatalement, on arrive sur des choses similaires. Mais c'est vrai que esthétiquement et cette manière de faire de la science-fiction en simplifiant le réel, c'est pas la mienne, quoi. Moi, j'aime bien créer des mondes complexes avec des beaucoup plus de nuances que dans des systèmes binaires, en fait.
On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul, les instincts d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas.
Alors, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, ça va être la première fois qu'on écoute Céline Dion sur Radio Campus, sur un texte de Jean-Jacques Goldman, on ne change pas, on ne grandit pas, on pousse un peu. Alors, puisqu'on le dit, votre roman graphique Préférence Système parle de préserver la mémoire, vous voulez vraiment garder Céline Dion ? Je suis désolé, c'est facile comme blague, hein, mais bon.
Ouais, moi je trouve que elle m'a touché, elle a touché plein de gens et
c'est l'utilisation dans le film de Dolan qui a. Alors ça. Dans Mummy.
Ouais, Dolan, moi j'ai beaucoup de mal. C'est vrai, j'ai vraiment.
On est donc deux.
Ouais, c'est trop, ça pose de partout. Non, Céline Dion, moi je trouve que en plus avec les textes de Jean-Jacques Goldman, c'est vraiment, enfin c'est surtout Goldman qui a écrit le texte et le texte, si on se penche dessus, tous les textes qu'il a écrits pour Céline Dion sont vraiment bien.
Je tiens à dire que je suis d'accord avec vous parce que je l'ai lu, j'ai jamais écouté et en lisant votre BD, on lit le texte et on s'aperçoit que ce texte est une merveille.
Ah ouais, c'est ça et franchement, il en a écrit des tonnes pour Céline qui sont incroyables et moi j'adore par exemple Laurent Voulzy qui écrit enfin, j'aime beaucoup la culture populaire de chansons, et je trouve que c'est un plaisir, et c'est très dur d'arriver à extraire des petits cailloux comme ça du réel. Par exemple, dans Woolsey, il y a Frimousse, je te regarde et j'ai la frousse, c'est quelque chose que je trouve, enfin voilà, c'est dur de dire des choses comme ça, et la chanson est le lieu de ces petits diamants fragiles, et voilà, c'est une dion, moi je trouvais que c'était important de la...
Et ça vous amuse, vous, en tant que BDAS, de mettre de la chanson dans une BD?
C'est très compliqué de mettre de la chanson en BD, mais là je vois, voilà, c'était, vu que c'était un texte et
parce qu'il y a un moment on la voit aussi après, alors je vais pas trop raconter l'histoire, mais dans une deuxième partie où il y a tout un passage où la chanson sert de fond à toute une séquence.
Ouais, c'était ça. Et puis bizarrement, là pour le coup, j'avais fait mon découpage et je savais pas quel texte mettre dessus trop. Et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, j'avais tenté un autre texte que j'avais au début du quand j'ai commencé à fabriquer, j'avais fait une sorte de liste de textes que je trouvais déterminants. Et puis ça, y a rien qui collait. Et puis tout d'un coup, je prends ce texte là et je le pose sur les pages. Et ça me permet de faire la transition avec une toute petite fille et de passer dans la chambre. Et en fait, ça me permettait de faire aussi comme un fondu cinématographique. Et je trouvais que, enfin voilà, c'était...
Ceux de nos auditeurs qui liront, et j'espère qu'ils seront nombreux à votre BD, seront forcément émus à ce passage-là, parce qu'il est magnifique. Ce roman raconte donc une histoire, j'insiste sur ce point, parce qu'un de vos personnages, pour un de vos personnages, les histoires sont très importantes. Il dit par exemple... Nous nous sommes construits par les histoires et nous serons effacés par les données. Cette phrase, je la trouve géniale, je vous le dis franchement. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous pouvez développer un petit peu pour nos auditeurs ?
C'est pas moi qui le dis, hein. Tout le monde le dit. C'est parce qu'on
vous
a
dites des... très bien. Là, vous parliez des petits cailloux, là, c'en est un, ça.
C'est parce qu'on
je vais a. Je vais la redire. Quand même. Ouais. Nous nous sommes construits par les histoires et nous nous serons effacés par les données.
C'est parce que ouais, c'est ce qui a permis à l'humanité d'avancer, et à chaque fois, c'est l'adhésion à une histoire commune. C'est l'adhésion à une histoire universelle et qui fédérait. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, quand je regarde comme ça, je me dis, bon, on n'a jamais raconté autant d'histoires, mais il n'y a jamais eu aussi peu de... Enfin, les gens... Enfin, je sens que le corps social est disloqué, quoi. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a plus d'histoire.
On ne partage plus de grands récits.
On ne partage plus, ouais, de grands récits qui fédèrent tout le monde. Voilà. Et parce que le récit est devenu le lieu du particulier. Il va, en fait, de l'universel, parce que l'idée, c'est d'accepter tout le monde, de faire... Enfin, voilà. Mais tout ça pour aller vers le particulier, alors qu'avant, on partait du particulier pour aller vers l'universel. Et en fait, il y a une sorte de chemin inverse qui s'est opéré et qui, je pense, est très dangereux pour notre cohésion.
Il y a d'ailleurs un personnage dans la BD qui est la femme du héros, enfin, de l'anti-héros, qui le dit, ça, à un moment.
Ouais.
Elle s'inquiète du fait que maintenant, il n'y ait plus d'histoire partagée par tout le monde.
Mmh. En fait, parce que le fait d'aller... de l'universel vers le particulier, ça isole tout le monde, en fait. Tout le monde est retranché dans sa particularité et dans ce qui le différencie de l'autre. Et je trouvais que le récit universel, c'était au contraire, pour marcher tous dans le même sens. Voilà. Et donc, par effet de miroir, on a changé le but et c'est un peu bizarre.
On parle du texte, mais votre manière de dessiner est très réaliste. Mmh. Vous avez... on a donc à l'instant là, vous disiez que vous aviez utilisé l'ordinateur. Est-ce que pour c'est une question que je me suis posée, ou est-ce que c'est une influence que vous revendiquez, notamment tous les paysages urbains, on a l'impression de voir Google Maps. C'est quelque chose que vous avez utilisé ou pas du tout?
Bah il y a des fois, ouais, parce qu'on se dit j'ai envie de faire tel décor. Moi je suis absolument pas un toqué de, par exemple, inventer une ville de tête, c'est hyper chiant. Et puis en fait, en général, on fait toujours le même immeuble. Et moi, ce qui m'intéresse, vu que mon récit, il est dans le futur, et que tout récit, la condition d'adhésion, c'est le réel, si je dis pas aux gens, regardez ce que vous voyez, ça existe dans notre vrai monde, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, j'y crois pas trop à son truc, parce que je sais pas sur quoi c'est basé. Et moi, je veux dire, c'est pareil quand on dessine une poubelle, si on la dessine de tête, c'est une poubelle, je veux dire, c'est un logo. Alors que si on se dit, ah non, mais je voudrais telle poubelle, et ben tout d'un coup, le lieu, il est habité et tout. Donc moi, ouais, des fois, j'ai envie de dessiner tel truc parce que ça donnait une ambiance à mon dessin, et l'objet est important là-dedans aussi. Et vraiment, en fait, la photo, c'est une béquille, quoi. Enfin, en fait, on fait un peu comme les réalisateurs qui font de la déco et qui se disent, bah tiens, dans telle pièce, je voudrais la lampe de tel designer parce que ça va donner tel effet, quoi. Voilà, moi, c'est un peu la même chose. Là, j'ai besoin d'une vue de sortie de Paris, par exemple, que je prends toujours quand je suis avec mes parents. Je l'ai faite aussi dans Paiement accepté, mon album préférant. Accepté. Hein.
Votre roman précédent.
Ouais, mon roman graphique précédent. Et du coup, voilà, c'est cette sortie de Paris où il y a l'église avec les anges, là, que je trouve géniale. Et ben, en général, soit je prends une photo avec quand je pars avec mes parents, soit je vais sur Google Maps et je trouve le meilleur angle. Quoi.
Et on l'a d'ailleurs dans Préférence Système, cette église, on la voit, je crois.
Ouais, ouais, on la voit toujours. Il y a Vézelay aussi. j'ai deux, trois trucs comme ça, deux, trois trucs où j'aime bien.
Vous travaillez aussi sur des dessins animés. Est-ce que Préférence Système ferait un bon dessin animé? La question, c'est est-ce que c'est le même matériau ou est-ce qu'il faudrait le retravailler pour en faire un dessin animé?
Ah, il faudrait le retravailler parce que il y a une temporalité qui n'est pas cinématographique du tout. Et c'est comme tout, on peut pas juste prendre un truc et puis le mettre dans un autre médium, quoi. Il faut retravailler, il faut donner sa forme au récit dans un nouveau. Dans un cadre, quoi.
Ouais, dans un nouveau, avec un nouveau média, nouveau récit. Ouais. Pourtant, vous travaillez sur les temporalités. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé génial dans cette BD, c'est la manière dont à un moment le temps s'arrête. Il y a deux scènes qui sont sur plusieurs pages. Il y a une naissance qui devrait tirer des larmes à plein de monde. Et puis il y a un combat aussi à la fin que vous avez tiré volontairement sur plusieurs pages.
Ouais, alors le combat, en fait, bizarrement, je ne l'ai pas étiré volontairement. Je voulais le faire assez court. Sauf que je me suis rendu compte que pour faire un combat qui marche, il fallait l'anticiper. Il fallait expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un combat, parce que sinon on se dit pourquoi tout d'un coup ils se mettent à se battre. Et puis il faut qu'il se règle, le conflit faut qu'il se règle de manière logique, parce que sinon on croit pas à sa résolution. Et du coup, en fait, moi j'étais parti pour faire 5 pages, il en fait 12, je crois, et c'était pas voulu au départ que ce soit si long. C'est juste que j'ai découvert que, puisque j'avais jamais fait de combat avant en bande dessinée, j'ai découvert que déjà, découper un combat, c'est super dur parce qu'il y a des ellipses qui sont très particulières, il y a des raccords qui sont très particuliers pour qu'on saisisse les enchaînements de mouvements, mais qu'en même temps, enfin voilà, c'est un exercice très particulier. Moi, quand je lisais Dragon Ball Z, je me disais, oh, il se fait trop plaisir là, et ça doit être trop agréable à faire. Et enfin, en fait, non, c'est très compliqué à faire.
que l'on surprenne leur cérémonie sacrée. Sur les bords de Seine, le septième jour de la semaine, avec toi, on en verrait bien tout valser.
C'est un remix d'un titre d'Étienne Dao, Les bords de Seine, donc Étienne Dao.
La relève sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Hugo Bienvenue, à qui on doit un magnifique roman graphique qui s'appelle Préférence Système et qui est paru aux éditions de Noël Graphique. Vous pouvez nous parler de la maison d'édition que vous venez de créer, les réalistes, possible pour les personnes intéressées, réalistes avec un S.fr.
Bah, l'idée, c'était que j'entendais des amis à moi qui voulaient faire de la bande dessinée, qui viennent d'un autre milieu, du milieu de l'animation, et qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Et je me disais, bon, il faut qu'ils fassent leur livre et surtout, il faut qu'ils soient libres dans leur livre. Et du coup, je leur ai dit, un jour, je suis allé les voir. Je leur ai dit, ça y est, les gars, j'ai créé la maison d'édition. Maintenant, vous pouvez faire vos BD comme vous l'entendez. Et puis moi, c'était aussi pour créer une sorte de cours de récré où je pouvais m'amuser, jouer avec les copains, en fait, de manière complètement libre, sans enjeu économique.
Vous avez déjà publié 4 textes ?
Cinq livres. Et vraiment, je suis heureux de voir que chaque livre ressemble à leurs auteurs, quoi. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Voilà.
Et est-ce que le fait d'être éditeur, ça change la manière dont vous travaillez en tant que dessinateur, en tant qu'auteur ?
Non, parce que j'ai commencé à produire des films assez jeune, autour de 23 ans. Je travaillais avec d'autres gens. J'ai toujours eu ce truc d'essayer d'aller chercher chez les gens ce qu'ils avaient de bien et d'essayer de faire sortir ça d'eux. Et c'est comme quand on est amis et moi j'aime ce truc d'entraide, avançons ensemble. Et je trouve que plus on avance ensemble, plus on peut être fort aussi dans la vie. Et puis
moi j'aime bien parce que à la fois vous aimez bien l'entraide et d'avancer ensemble, mais quand vous avez une idée, vous voulez la garder pour bien la travailler.
Ouais, parce que ça fait aussi partie.
Non, mais les deux sont importants. Ouais. C'est bien que vous disiez les deux.
Les deux vont ensemble. Et puis ce serait pas me servir moi de leur livrer, et ce serait pas leur servir eux, parce qu'ils vont y voir autre chose. Mais par contre, quand on travaille sur leur livre, c'est super parce qu'on essaye de tirer le livre au mieux, quoi. Et ça, c'est un rôle d'éditeur, de producteur, et que j'adore avoir, d'être une sorte de révélateur. Je vais révéler ce qu'il y a de beau dans ton image. Je vais t'aider à révéler ça. On va emmener ton truc au maximum. Après, on est sur deux autres livres.
Quand vous, en tant qu'auteur, vous travaillez, vous acceptez facilement que votre éditeur, là, par exemple chez De Noël, vous disent là, faut que tu ailles vers ça.
Ah bah Jean-Luc Fromental, oui. Après, avec Jean-Luc et puis d'ailleurs avec les gars avec qui je bosse dans ma maison d'édition, mais Jean-Luc, mon éditeur, me fait confiance. Il voit les choses que 3 semaines, 1 mois avant qu'on aille à l'impression. Et moi, je fais la même chose avec les mecs. C'est-à-dire que on parle une première fois de leur idée et je leur dis bon bah super, vous y allez.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'emprunter pour l'occasion ceux d'un autre merveilleux guignol. William H. Auden. C'est tout ce que je voudrais dire. Arrêtez les pendules. Coupez le téléphone. Empêchez le chien d'aboyer pour l'os que je lui donne. Faire taire les pianos et sans roulement de tambour. Sortir le cercueil. Avant la fin du jour. Que les avions qui hurlent au dehors dessinent dans le ciel ces 3 mots. Il est mort. Nouer des voiles noires aux colonnes des édifices. Ganter de noir les mains des agents de police. Il était mon nord, mon sud, mon est et mon ouest. Ma semaine de travail. Dimanche de sieste. Mon midi, mon minuit, ma parole, ma chanson. Je croyais que l'amour jamais ne finirait. J'avais tort. Que les étoiles se retirent. Qu'on les balaye. Démonter la lune et le soleil. Vider l'océan, arracher la forêt. Car rien de bon ne peut advenir désormais.
Voilà, c'est un extrait de 4 mariages et un enterrement. Je ne sais pas quel est le nom de l'acteur qui double l'acteur original, mais parfois on critique les doublages. Là, je dois dire que rien qu'à le réécouter, on frissonne. Fénéral Blues d'Oden, un des auteurs que vous voulez sauver dans cette BD Préférence Système. Hugo, bienvenue. Sur le site des réalistes, vous posez à Nicolas Peugeon, un des auteurs avec qui vous travaillez, la question suivante. Ton rapport à la mort est constant, quotidien, il transparaît dans tout ce que tu fais. De quelle nature est-il réellement? J'ai envie de vous poser exactement la question, mais en remplaçant le mot mort par le mot perte. J'ai l'impression que vous avez un rapport à la perte très particulier.
Ah ouais, ça traverse tout ce que je fais. C'est le fait d'être inconstant, de pouvoir disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dès mes 8 ans. Je me suis dit, ok, tu peux partir à n'importe quel moment et résiste, quoi. Prouve que tu existes.
C'est quelque chose auquel vous pensez en permanence ?
Pas en permanence, mais
en tout cas, c'est quelque chose qui vous travaille ?
Justement, ça ne me travaille pas quand je travaille. Du coup, je travaille.
Ouais, et c'est pour ça donc, que vous faites autant de choses, ouais. Parce qu'on est impressionné par tout ce que vous avez fait à l'âge que vous avez. Donc, c'est quand je travaillais, vous oubliez.
Quand je travaille, ouais, en tout cas, je suis dans une sorte de... Je me dis que je suis dans la vie, je suis dans l'instant, je suis dans le présent, je suis en moi. Et je ne suis pas dans cette espèce de truc de... Je vais m'évanouir dans... Voilà.
Je me suis retenu de ne pas vous citer pendant toute l'émission parce que votre dialogue est magnifique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, au sujet de la perte, vous écrivez à un moment dans Préférence Système. Personne ne prend soin de ses remparts. Un jour, on se rendra compte qu'ils étaient là parce qu'ils se seront effondrés.
Ça, c'est vraiment un constat. Je le fais tout le temps. L'homme se rend compte de ses conneries. Et d'ailleurs, moi, tout le monde, hein, on se rend compte quand il est trop tard et quand on ne peut plus rien faire.
Là, c'est un message politique. On pense à l'écologie, au mouvement des jeunes actuellement. Est-ce que c'est aussi ça que vous dites à ce moment-là ? Là, vous parlez de remparts, mais on pourrait dire la même chose à la planète ?
Ah ouais, on pourrait dire plein de choses, enfin pareil surtout, c'est pas vraiment politique parce que je suis pas très politique dans l'art, mais c'est la même chose pour par exemple moi qui fume et qui me dit putain tu tousses tout le temps et je sais que j'arrêterai trop tard, enfin, c'est applicable
sur tous les... Je suis sûr que vous arrêterez à temps.
C'est applicable en fait à tout, c'est applicable à l'éducation, on voit que trop tard qu'on a fait des conneries et que là j'ai vu un truc sur LCP hier soir, on a balancé toutes les armes chimiques dans la mer et qu'en fait si elles explosent aujourd'hui c'est dramatique en fait, et je me dis comment on s'est pas rendu compte à l'époque que foutre des produits chimiques dans la mer par millions de tonnes ça allait pas poser un problème à un moment donné, donc on se rend compte toujours trop tard de ce qu'on fait.
J'ai dit que je ne vais pas trop citer votre texte.
Ça fait plaisir.
Je dois dire malgré tout qu'il y avait des moments où j'avais envie de le souligner, ce qui arrive très rarement quand on lit des BD. Vous travaillez beaucoup le texte ?
Ouais, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est très important pour moi et aussi, voire plus important que le dessin.
Vous ne publieriez pas un dessin avec un mauvais texte ? C'est quelque chose que vous relisez, vous faites très attention.
J'espère que je n'en laisse pas passer, ouais, des mauvaises phrases. En fait, j'essaye vraiment que chaque phrase dise plus que ce qu'elle veut... que ce qu'elle dit, que chaque phrase puisse résonner de manière un peu plus ample et pas juste servir le récit. Sinon, j'aurais l'impression de faire un kit Ikea, quoi. Genre, mettez la vis là et puis voilà. Donc, je trouve que c'est ça aussi raconter une histoire. C'est délayer des choses, c'est donner, quoi. Et puis, c'est résonner. Donc,
y a on va leur dire, personne ne prend soin de ses remparts. Un jour, on se rendra compte qu'ils étaient là parce qu'ils se seront effondrés. En plus, c'est très élégant comme phrase. Hein.
Des fois, c'est dur à condenser, surtout quand on a une taille de bulle. C'est ça qui est compliqué en bande dessinée. Des fois, on a envie de faire des phrases quoi et elle rentre pas dans la bulle, on se dit merde putain alors on refaçonne, on retaille et c'est intéressant de...
Le temps avance, on n'aura malheureusement pas le temps de parler de vos collaborations avec Disney, de votre travail de dessinateur de dessin animé, mais si vous voulez revenir ça sera avec plaisir le jour où vous aurez une nouvelle actualité. Je voudrais juste terminer en citant la phrase qui est en quatrième de couverture, donc je vous cite encore et je ne peux pas croire que cette phrase soit un hasard. Vous dites: chaque homme dans sa vie assiste à la fin d'un monde, et j'avais envie de vous demander, seulement un monde dans sa vie vraiment?
En tout cas moi il assiste à plusieurs fins de monde, ouais, mais il y a essentiellement la sienne, quoi. On va dire que chaque homme a la nostalgie du monde de son enfance et en fait il passe sa vie à assister à la fin du monde de son enfance, quoi. Voilà, il y a un truc comme ça.
Merci beaucoup Hugo, merci. Bienvenue d'être passé par le studio. Je redonne le titre de votre album Préférence Système, c'est paru chez De Noël Graphique et si les gens n'ont pas compris, j'invite tout le monde à le commander au Père Noël, c'est bientôt, n'hésitez vraiment pas, vous ne serez pas déçus. Vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà le 8e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par le dessinateur aussi Antonin, présenté et préparé par Christophe. On se retrouve dans 15 jours, le lundi à 14h, et quand vous voulez, sur le site de Radio Campus Paris, émission La Relève. Merci.